I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Stani. Salut Stani.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Très bien, très bien.
Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invite.
Comme j'ai coutume de le faire, je vais faire un CV accéléré.
Ok, vas-y.
De ton parcours et après on reviendra en détail justement, mais au moins pour avoir une petite présentation pour les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Donc Stani, producteur qui depuis plus de 10 ans a collaboré avec la section d'Assaut, Lino, Dry, Kerry James, Alonso et quelques autres sous le nom de Stan-I. Et ces derniers mois, Stani, cette fois-ci avec un Y, a été au crédit des derniers tubes de DJ Snake, notamment Disco Maghreb, et s'est aussi lancé à son propre nom, notamment avec le single Only You avec Rema et Offset en invité. Pas des moindres invités, donc c'est pas mal. Est-ce que tu penses que pour reprendre le titre du seul morceau à ma connaissance, en tout cas sur lequel on entend ta voix, tout le monde te connaît?
Ouh là là, j'avais carrément oublié. Non.
Tu te souviens de ce morceau?
Ouais, je m'en souviens très bien. Putain, j'essaie de l'oublier.
Désolé alors.
Non, personne me connaît. Personne me connaît.
Et ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, je pense que beaucoup de gens te connaissent, ou en tout cas connaissent ta musique. Mmh. Et justement, au vu des noms que j'ai cités et au vu des morceaux dont on va parler, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens te connaissent, en tout cas pour ton art et ta musique. Effectivement, pas pour ton nom. Donc, ça va être intéressant de revenir sur ce parcours-là. Avant justement de revenir sur ce parcours discographique, Stani, est-ce que tu peux me parler de tes premiers souvenirs liés à la musique?
Je dirais mon père. Hein. Mm-hmm. Mon père, forcément, il me faisait écouter de tout, et surtout du Michael Jackson.
Ok.
La musique black, en fait, des...
La musique afro-américaine.
Afro-américaine, ouais. Et africaine aussi, quand même. Parce que je suis d'origine congolaise.
D'accord.
De Kinshasa. Et du coup, mon père, il faisait écoutait beaucoup de rumba, l'ancienne rumba, quoi. Du franco, plein de trucs comme ça, en fait. Et voilà, j'ai baigné là-dedans. Et forcément, ça se ressent dans ma musique aujourd'hui.
Tu es né en quelle année, si c'est pas discret?
En 87.
Ok, comme moi, génération 87. La meilleure qu'avec
comme
Benzema,
meilleure.
C'est ça. Ouais. ouais, donc j'imagine que tu te prends peut-être plus tard tout ce qui est rap, R&B, ce genre de choses dans les années 90.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
C'est quoi tes premiers souvenirs liés à ces genres musicaux-là?
C'est mon grand frère qui m'a introduit au rap. Et je me rappelle d'avoir écouté un Cut Killer, je crois, Cut Killer. Cut Killer Show.
Ah, Cut Killer Show, donc les compilations.
Sur Skyrock.
Ah oui, donc l'émission, ok, d'accord.
Ouais, l'émission. Et je me rappelais, c'était le son, je crois c'était l'Impertinent, je crois, qui tournait. Et,
de Fab, ouais.
Ouais, de Fab, et ouais. J'entendais les scratchs, tout ça, et je suis devenu fou. Je ne comprenais pas c'était quoi cette musique, et je suis tombé amoureux du hip-hop.
C'est pas mal comme porte d'introduction Fab dans le rap français, c'est quand même cool.
Ouais.
De cette porte d'entrée musicale aussi bien familiale, tu citais ton père justement sur la musique africaine et afro-américaine, et ensuite toi tes premiers amours pour le rap. Qu'est-ce qui toi t'a donné ensuite, fait franchir le pas d'avoir envie de faire de la musique?
Michael Jackson encore.
Ouais.
C'est que j'écoutais tellement Michael, j'écoute même Stevie Wonder, etc. Tous ces trucs-là, j'ai toujours été un enfant assez curieux, donc ce qui fait que, et comme je sortais jamais dehors, j'étais tout le temps chez moi, j'avais le temps de réfléchir à tout ça, et je voulais absolument participer à ça. Donc je me prenais la tête, j'essayais de trouver des logiciels, j'emmerdais ma mère pour me dire vas-y, achète-moi ça, mais bon, c'était jamais les bons logiciels, et je me suis dit c'est ça que je veux faire, il faut absolument que j'arrive à faire ce truc là et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est la musique classique aussi m'a donné envie de faire, de composer des choses, etc. Et le truc qui m'a vraiment, vraiment mis le pied à l'étrier, je pense, c'est l'époque où Pharrell, enfin les Neptunes sont arrivés, en fait. Parce que j'ai en entendant la musique, j'ai compris en fait comment la musique était faite. C'était très, très simple, il y avait peu d'éléments et les machines étaient là, quoi. On avait déjà les logiciels, on avait tout ça. Donc, ouais, je crois que c'est Neptunes qui m'ont vraiment. Ouais, c'est Neptunes. Je dirais Neptunes.
Ta production préférée des Neptunes?
En vrai, en fait, celle qui a plus marqué, je pense que c'était celle de Noriega, Super Thug. Moi, j'aime bien aussi Grinding. Parce que c'est ouais, des clips. From ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip, it's off the hard. I'm the neighborhood pusher, call me subwoofer, cause I pump bass like that jack on or off the track. C'est la simplicité, c'est...
Y'a rien en fait.
Ouais.
C'est une énorme batterie,
ouais.
C'est quelques sons inidentifiables au refrain là,
ouais.
On a l'impression que c'est des, ouais. C'est des noix qui sont frappées, ouais. Les unes contre les autres. J'adore, moi c'est ma production préférée des Neptunes, ouais. Aussi Grinding, parce que encore jusqu'à aujourd'hui je la trouve
ouais, exceptionnelle,
phénoménale, quoi.
Intemporelle.
Exactement.
Alors qu'il y a beaucoup de sons des Neptunes là aujourd'hui qui ont pas mal vieilli, mais on se dit ouais c'est ça date, alors que Grinding aujourd'hui c'est encore d'actualité.
Et puis c'est très agressif, tu citais aussi pardon Super Thug, mm-hmm. C'est un son qui est extrêmement agressif, très corrosif, tu vois.
Ouais,
et
mais surtout si on regarde le pattern des drums, il est exceptionnel.
Ouais.
Sur comment ça tape en décalé, la caisse claire tape en décalé, c'est mi-rock, mi-hip-hop, c'est...
Oui, bah en plus Pharrell expliquait ça, qu'effectivement son idée de départ pour faire Super Thug, c'était... les groupes qu'écoutaient certains de ses potes au collège ou au lycée, qui étaient des groupes de punk ou de rock ou de métal, et en fait ils voulaient avoir cette énergie, ce genre de d'accord en fait, pour un morceau de rap.
Ouais.
Donc c'est exactement ce que tu décris là, quoi. Tu parlais de musique classique. Est-ce que c'est un genre musical auquel tu as été sensibilisé aussi dans le cadre familial, ou est-ce que c'est par ta curiosité? Tu disais que tu étais quelqu'un de très curieux. Est-ce que c'est par ta curiosité que tu es arrivé à ce genre musical là?
Ouais, là c'est en fait c'est que la musique classique elle m'a été introduite à l'école primaire par une prof.
Okay.
Et en fait, elle rendait la chose intéressante en racontant la vie des compositeurs.
Okay, ouais.
Donc, en gros, les différentes époques. Donc, en gros, c'était facile pour nous de plonger dans cet univers. Et moi, en fait, j'ai adoré surtout Beethoven, en fait.
Mm-hmm.
Beethoven, Schubert, tous ces gens-là. Bah, ouais, cette époque-là, j'ai beaucoup adoré. Et du coup, bah, moi, forcément, je voulais faire partie de ce truc-là aussi, encore une fois.
Ouais. Ça a participé à ton éducation et ton oreille musicale en plus, quoi.
Et j'essayais de comprendre aussi comment ils faisaient pour composer, en fait. Parce que je me suis dit, à cette époque-là, composer des musiques aussi complexes, avec autant d'instruments, je me suis dit, mais comment ils font? Un seul être humain peut composer autant de choses. Bah, ça m'a fasciné, tout simplement. Et quand on dit que Beethoven, il était sourd, et tu dis, il a fait ça, t'as l'impression d'être une merde, en fait. C'est ça, le truc.
À partir du moment où t'arrives à entendre la musique, juste par la force de l'imagination, c'est fort.
Ouais. Ah, c'est du génie.
Tu parlais de logiciel. Tu te souviens sur quel type de matériel tu as commencé à faire tes premières productions?
Je crois que j'ai... Non, j'ai commencé par Fruity Loops. Enfin, le vrai logiciel de compo, c'était Fruity Loops.
Mm-hmm. Quand tu commences à te mettre à la production, on est vers quelles années?
Je dirais 2003, 2004, j'ai pas envie de dire des conneries.
Ok, donc vraiment à l'adolescence, quoi.
Oh, ouais, ouais. Okay. J'étais au collège, j'étais à fond dedans.
T'as grandi où?
À Neuilly-sur-Marne. Dans 93.
93, ok. Ouais. Et dans ton entourage, il y avait déjà d'autres personnes comme toi qui voulaient faire du son. Est-ce qu'il y a déjà ce truc de collaborer, tu vois? Parce que tu disais que tu étais quelqu'un de très dans ta chambre, faire des choses. Non, il n'y avait pas du tout dans ton entourage.
Non, il n'y avait pas du tout ça.
C'était très perso, quoi, cette passion pour la musique.
Ouais, les gens, ils s'en foutent de la musique. Genre, ils voulaient juste aller serrer des meufs, jouer au foot.
Des trucs d'ado, quoi.
Ouais, exact. Ouais. Exact. Bah, moi, je me rappelais, je traînais avec DJ Spank. Tous ces trucs-là.
Ok.
Ouais.
C'est fou, ça.
C'est justement, c'est Spank aussi qui m'a dit, change de logiciel, prends Reason, là, etc.
Et comment t'as rencontré DJ Spank, qui à l'époque était un DJ très établi, en faisant partie de BOSS, en produisant justement les prods de tous les projets avec Joey, donc voilà.
Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, j'ai commencé en tant que DJ. Donc,
d'accord.
Je faisais des mixtapes. Et mon frère, moi, j'étais à l'école, et mon frère, il était un peu plus grand. Lui, des fois, il avait beaucoup de temps libre. Il allait à Urban Music acheter les vinyles, il achetait à Samad, là où on a rencontré Snake, etc. Et un jour, il y avait Spank, je crois, il allait acheter ses vinyles, je crois, tous les mercredis ou jeudi, je ne sais plus quoi. Et mon frère, il est parti le voir, il dit « Ouais, en fait, mon frère, il fait ci, ça, 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 ça. » Et lui, il a dit « Bah, vas-y, passe à la maison. » On est passé à la maison, et comme mon frère, c'était un méchant geek, il arrive à avoir tous les sons à l'avance, sur les réseaux, etc. Bah, ça a matché direct, et après lui il nous a adoré, en fait. Il a dit vas-y, je fais ton intro de mixtape et tout, etc. Il faisait toutes les intros de mes mixtapes, Et après, bah, après ça a enchaîné. Ça... Un jour, il y avait Rof, je me rappelle, au Sky BOSS, il faisait son freestyle. Mais ça... en plus, le lendemain, j'avais école, donc c'était jeudi soir à minuit, etc. Il faisait son freestyle et Spank, il me dit « Allez, va au platine, Edo. » Et je balançais les instrus pour Rof et tout. C'était des bons souvenirs, en fait. C'était des très, très bons souvenirs. Et après, je commençais de temps en temps à mixer aussi à l'émission. Et après, Spank, il est parti à New York et voilà, pour faire son FBI show.
FBI, c'est ça, ouais.
Et moi, j'ai suivi et on était dans, j'étais dans le crew, donc je mixais tout le temps là-bas. J'étais tout le temps à New York. On était avec les rappeurs là-bas. Non, c'était une belle expérience. Et justement, c'est là-bas aussi que j'ai beaucoup perfectionné la prod. Parce que forcément, Spank, il avait aussi un niveau quand même. Mm-hmm. Il avait fait ma Benz, etc. Et on était entouré de... Ouais, dans ce crew-là, il y avait plein de gens. Il y avait Snake, il y avait Jamie, Ako. En fait, il y avait plein de gens, en fait. On était une sacrée team de Français là-bas, quoi.
J'ai l'impression que ça a été un rêve qui n'a pas réussi à se concrétiser complètement, ce truc d'avoir ce pool de producteurs français pour placer aux États-Unis. Mmh. En tout cas, en termes de crédit, tu vois, j'ai pas l'impression que qu'ils ont complètement réussi à aboutir ce truc-là.
Non, on n'a pas réussi, mais en même temps, c'est parce que aussi chacun avait aussi ses délires de leur côté. Mmh. Donc il n'y avait pas vraiment une implication de. Mmh. Pas vraiment, c'était pas genre une dizaine de gars qui sont à fond là-dedans. C'était vraiment 10 gars, 10 satellites qui font leur truc de leur côté. Et...
C'est une coopérative, quoi.
Exactement. Ouais. C'est ça.
Donc, tu es en train de me dire qu'on est à la fin de ton adolescence, c'était à New York et que tu mixes.
Ouais.
C'est dingue, ça.
Ouais, c'est ouf.
C'est parce que tu dis ça avec beaucoup de lucidité et de recul aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, ça devait être quand même assez fou à vivre.
Ouais, mais en fait, c'est le truc, c'est quoi? C'est que il y avait en parallèle, il y avait l'école, et l'école, moi je me rappelle, j'avais demandé à faire une école de son, je sais pas, je voulais vraiment faire de la musique. Et le problème, c'est que l'école, il me disait, bah non, là t'as pris le mauvais chemin, là tu peux pas faire une école de musique si tu fais STT, je sais pas quoi, nanéen. Et je me suis senti tellement douillé que j'ai fait, bon, vas-y, j'arrête. Et du coup, j'étais dans ce truc là où il fallait. Pas survivre, mais il fallait absolument trouver une solution pour faire de la musique mon métier, en fait. Donc j'étais
partout. T'étais pris entre deux... T'étais tiraillé, quoi.
Ouais, j'étais tiraillé. Mais, même pas. Hein. J'ai carrément arrêté l'école et je suis parti à fond dans sur la route de la musique, quoi. Mais voilà, ça, c'est une sacrée époque. C'est une sacrée époque, ouais.
Alors, quand est-ce que tu arrives enfin à te lancer totalement et est-ce que tu te souviens de tes premiers placements que tu arrives à faire, justement?
Bah justement, les premiers placements, je les ai faits avec Spank. On avait placé pour... je ne me rappelle plus des artistes, je crois. Il y avait un mec qui s'appelle Savage. C'est un mec de Nouvelle-Zélande. J'avais placé pour Lord Tariq. Ça, c'est une légende du rap. Ouais.
Légende du rap à New Yorker, ouais.
J'avais placé pour Corey Guns. Mm-hmm. Et ensuite... Ouais, c'est ça mes premiers placements. C'est ça mes premiers placements. On va dire hors France, c'était ça.
Donc on est à la fin des années 2000, peut-être quelque chose dans le genre-là.
On est en 2000, je crois on est en 2005.
Ah ouais, donc moitié des années 2000,
ouais,
ok.
Ouais.
Et donc tout ça, c'est des morceaux qui sortent sur des mixtapes
Ouais, des mixtapes, mais à l'époque, je crois que c'était sur MySpace. Ouais, c'était ça.
Tu signais déjà Stani à l'époque?
Non.
Ah oui, ok.
Non, je ne sais même pas si j'avais ce blaze. Non, je m'appelais Stan It Last à l'époque.
Ok.
Le nom, trop dur.
Et alors, à quel moment tu reviens en France et à quel moment tu commences à vouloir te faire un nom justement dans la musique française et dans le rap en France?
En fait, après cette époque-là de Spank, je suis revenu parce que Snake, il mixait beaucoup aussi en soirée, etc. Mm-hmm. Donc et comme on était tous en contact, on était tous en famille, en studio avec une équipe et avec notre équipe. Et j'ai beaucoup travaillé avec Snake. Et c'est là on s'est beaucoup mis à la musique électronique. Mmh. Et c'est ça mon retour en France. Ça a commencé par là. C'est ça. Et on a fait beaucoup de bootleg avec Big Ali. On a fait des morceaux avec Pibule et Econ. On a fait pas mal de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai beaucoup de prod hip-hop, j'ai beaucoup de choses. J'ai envie de faire du rap français, j'ai envie de faire des trucs. Et vraiment être tout seul, en fait. Et c'est là que j'ai fait ma route tout seul, en fait. Et j'avais besoin aussi d'acheter du nouveau matos. Mais comme il n'avait pas non plus l'oseille pour faire ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais reprendre le DJing. Et j'ai mixé partout sur Paris. J'étais tout le temps en soirée. Et je faisais beaucoup d'argent. C'est ça qui était bien. Et avec ça, bah, il y a un promoteur qui m'a introduit. Après, ça, j'ai déjà raconté. Mais un promoteur qui m'a introduit un mec. En fait, il faisait des films de boules et tout, etc. Bref. Et après, j'ai fait ça. J'ai fait ce film-là. Et en faisant ce film de boules,
t'as fait la musique, on s'entend bien.
Ah, j'ai dit quoi ? J'ai dit ça ? Non.
En faisant ce film de boules,
c'est ça. Non, mince.
Que les gens comprennent bien.
T'as fait la musique. La musique. Oh, le ouf. Ah, dingue. Parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle.
Ouais, t'inquiète.
Parce que c'est tellement vieux. Et ce mec-là, en fait, il s'appelle GG, ouais, double G. Il m'a introduit à un mec qui. Un producteur, en fait. Et ce mec-là, il avait un groupe qui s'appelait Logo BGT, tous ces trucs-là. Mm-hmm. Et donc, j'ai signé avec lui, j'ai signé avec Warner aussi, j'ai Warner Chappell. Et on a fait, on a travaillé sur Logo BGT, etc. Et donc, du coup, j'avais un studio. À partir de ce moment-là, j'avais un studio et je pouvais enfin travailler en studio, ouais. Et apprendre le truc. Et le premier morceau, en fait, que j'ai fait vraiment, c'était la musique pour ce film, en fait. Donc, c'était avec Seth Gecko. Il était bien placé pour le faire. Et voilà, c'était ça. Okay. Ma première séance studio, c'était Seth Gecko.
C'est ouf.
Et j'étais perturbé parce que j'avais jamais enregistré de rappeur. J'avais jamais. Je faisais que de la prod.
Ouais, bien sûr. Et t'étais toujours soit derrière des platines, soit derrière des machines, quoi.
Ouais. Donc j'apprenais tout sur le tas et ça se passait bien. C'était cool. C'était vraiment, vraiment cool.
Alors, effectivement, moi, le premier crédit que j'ai réussi à retrouver à ton nom, tu parlais de Logo BGT, c'est le morceau Elle danse sexy.
Ouais. Ouais. Plein de gens qui m'en parlaient, plein d'artistes qui m'en parlaient, même d'Adjou, et à chaque fois il me disait, ah, il a fait Logo BGT et tout. T'as niqué toute mon enfance, patati patati. Et je comprenais pas en fait. Ouais. Mais en fait, quand on fait du son comme ça, on se rend pas compte de l'impact que la musique elle a sur les gens. Parce que forcément, quand on est beatmaker, producteur, on enchaîne tout le temps en fait. On enchaîne et le morceau c'est bon, il est sorti, il nous appartient plus.
Bien sûr.
Et voilà. Et comme moi, je fais pas les concerts, je fais pas les trucs, et je sors pas, forcément, les gens, je suis pas au courant de ce qui se passe.
Ouais, t'as les œillères, t'as la tunnel vision, comme disent les Américains. T'es dans ton truc, tu fonces, tu produis, t'envoies et termine. Voilà.
Ouais.
Ce qui est intéressant avec un morceau comme celui-là, je trouve, c'est que ça dit tout de suite plein de choses que tu vas faire après. C'est-à-dire qu'on sent un peu de musique électronique, on sent des influences, évidemment, africaine. On sent des influences aussi R&B dans la manière de chanter le refrain. Ouais. Donc, c'est marrant comment ce morceau, qui est un de tes premiers placements importants, pour lequel tu commences à te faire reconnaître, il indique déjà plein de choses.
Ouais. Après, c'est. Après, je sais même pas volontaire en vrai. C'est ça qui est fou.
Bien sûr.
Fait. C'est qu'on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. On fait, on est là, on kiffe et c'est justement c'est en kiffant qu'on se lâche vraiment et qu'on met une partie de soi-même dans la musique. Il n'y avait vraiment pas de calcul. Là, les petits, ils sont là, ils font que de danser en studio, tu t'amuses, tu fais des rythmiques et c'est la fête, quoi. Donc, c'est ça. Franchement, ce morceau-là, c'est vrai qu'il y a vraiment toutes les influences, tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc,
Moi, je découvre ton nom un tout petit peu plus tard, parce que moi, je suis très branché rap à cette époque-là. Et je découvre ton nom avec l'album En attendant l'apogée, les chroniques du 75, volume 2. Et notamment le morceau Paris va bien. Si je fumais, j'aurais pété une clope. Je déborde d'inspiration, pas besoin de drogue. Si Paris va bien, Maître Gims pète la forme. Moi, je le milliardaire, Cristal, Monte Cristo. Comment tu fais la rencontre avec la section SO et comment tu te retrouves à travailler avec eux alors qu'ils travaillent déjà avec un certain nombre de producteurs, justement, sur notamment l'album L'école des points vitaux qui les a fait décoller l'année précédente.
En fait, à l'époque où je mixais, en tant que DJ dans les soirées, forcément, je rencontrais beaucoup de monde, etc. Et il y avait un de mes potes qui avait un plug avec Gims, en fait.
OK.
Donc, et lui, il voulait aussi se placer en tant que producteur, patati patata. Donc lui, je lui avais donné une palette et il y avait une prod, je crois que c'était Bré, je sais pas comment on appelle ça. Et justement, eux, ils avaient apparemment adoré cette prod. Et donc, un jour, il m'a dit, là, je vais voir Gims et tout, au McDo, là, à Gare du Nord. Je fais, vas-y, je viens avec toi. J'ai pris mon Mac, j'ai pris tout. Et voilà, j'ai rencontré Gims. J'ai fait écouter tous les pas mal de sons, etc. Il a dit ok, bah vas-y, je passe à ton studio et tout, cool. Et honnêtement, Gims, je connaissais que Désolé en fait, de ce qu'il avait fait. Donc je connaissais que ça de lui et je savais pas de quoi il était capable. Donc la première séance qu'on a faite, bah on a fait Ma Direction, je me rappelle, on a fait pas mal de sons. Et franchement, en termes de créativité, franchement, c'était ouf. C'était vraiment ouf. Franchement, honnêtement, là, de tous les mecs avec qui je travaille, je crois que c'est lui le plus doué, je crois, c'est Gims.
Ok.
Ouais.
Pour cette polyvalence, pour cette énergie en
la
studio.
Voix,
pour,
ouais. Ouais, la voix, la précision des mélodies. Même trouver les bons mots, en fait. Les bons mots sur des mélodies comme ça, franchement, c'est... Non, franchement, il est très, très doué. Très, très doué.
Quand là, j'ai réécouté justement les productions sur ce disque à l'époque,
oula,
justement.
Oula.
Ça te fait peur, c'est ça?
Ouais.
T'es critique, t'es autocritique justement de votre écoutant.
Ouais.
En tout cas, je trouve qu'il y a une signature, il y a un truc, c'est qu'on sent ton passage à New York. Mm-hmm. Il y a une espèce d'énergie très américaine dans l'approche. Mm-hmm. Beaucoup de caisses claires en contretemps, des poum, poum, tcha, tcha, poum, tcha, ce genre de choses, tu vois.
Ouais.
Je sais pas si t'écoutais aussi beaucoup... les prods, ou alors c'est eux qui te donnaient des indications, je sais pas comment vous fonctionnez.
Il y avait aussi de ça sur les. À l'époque, ils venaient avec. Tu vois, des fois, genre. Pas les trucs avec Gims et tout en général, tu vois, mais des fois, ils rappaient sur des phases B en fait.
Ouais.
Et ils rappent sur des phases B, ils disent bah vas-y, tu peux faire la même chose, mais il faut pas qu'on.
Mm.
Et c'est pour ça que des fois, il y a des trucs qui sont similaires à des.
Je pense beaucoup à des trucs de Shady, par exemple, de Shady Records, Aftermath, etc.
Forcément. Ouais. Forcément. Parce que moi, à la base, c'est pas du tout mon style.
Mm. T'étais pas sensible à ce style de production?
Si, mais pas à 100%. Quoi.
Ouais.
Moi, j'étais plus dans une autre école. Quoi.
Ouais.
C'était pas...
okay. Parce que je pense notamment à un morceau comme Rafale, par exemple, qui a un espèce de gros clin d'œil à Patiently Waiting de 50 Cent et Eminem, tu vois.
Ouais, moi, t'es pas grillé. mais oui, moi, j'étais pas... Non. Nous, quand on fait Paris va bien, ouais, là, on est en plein dans la création, on est dans ce truc-là, dans la folie. Là, je suis pas bien, je sais plus c'était quoi, c'était là aussi pareil. Mm-hmm. C'était ça, quoi.
Ouais, il y a notamment un morceau comme Vu la haine que j'ai aussi, avec ce piano très mélodieux.
Ouais,
et encore ce beat, justement, hyper agressif, un peu new-yorkais, quoi, justement.
Ouais.
Donc,
bien sûr. Aussi, New York, j'en avais mangé pendant je sais pas combien de temps, donc j'étais à fond dedans.
Et donc, il y a un truc que tu me disais d'intéressant, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites ce disque-là, vous commencez aussi à faire des choses qui vont se retrouver sur l'apogée. Parce que tu me parlais, par exemple, de Ma Direction, tu vois.
Ouais, Gims, j'avais entendu juste Désolé de lui. Mmh. Et après avoir fait la première séance, deuxième séance, etc., bah, je me suis intéressé quand même à ce qu'il a fait avant, etc. J'aurais dû faire ça avant parce que c'est pas sérieux. Mais bon, et j'ai vu qu'en fait, ouais, il pouvait aller vraiment dans toutes les directions. Et je me suis dit, mais celui-là, en fait, là, ça s'appelle à la limite le nouveau Johnny. Si vraiment il part dans une autre direction, il peut vraiment être le nouveau Johnny. Et du coup, on a créé un... Je sais pas comment on dit ça, mais quand on écoute Ma Direction, on voit très bien que c'est même plus du hip-hop, en fait. Tu vois, Désolé, c'est... ça reste du hip-hop avec des snaps et des trucs comme ça.
Oui, on est presque sur la variété française des années 80.
Exactement.
Ou ce genre de choses, ouais.
Ouais. Et du coup, on est parti plus dans un truc qui était un peu moins hip-hop, comme le mensonge sur les mamans. Comme je connais même plus les titres.
Avant qu'elles partent.
Avant qu'elles partent.
Ouais, avant qu'elles partent, là c'est pareil, on est dans de la pop, enfin voilà, complètement.
Exactement. Les Chroniques, c'est considéré comme une mixtape.
Ouais, une mixtape, bien
c'est
sûr.
Genre un projet assez street. Mm. Et l'apogée, bah ouais, l'apogée, c'est là où on a vraiment lâché vraiment le style pop, le. On s'est pas retenu, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est là où Gims, il a excellé, parce que il a fait, je pense, ouais, il a fait des refrains incroyables, il a...
Ouais, mais même en termes de direction musicale, tu vois, un morceau comme AC, il y a presque un truc un peu latino, africain, bah, y a ce truc justement afro-pop. On sent vraiment que, même
ça
toi...
Ça part dans tous les sens. Hein.
Ouais, et est-ce que justement, toi, c'est... Comment dire, tu fonctionnes selon leurs envies à eux, est-ce que t'es aussi force de proposition, parce que c'est des choses que t'as envie de faire, tu vois.
Mm-hmm. Ouais. En fait, il faut savoir que Gims aussi, quand même, il a dans son téléphone, il a beaucoup de refrains, des fois, même des fois des petites lignes mélodiques, etc. Mais à partir de là, bah, imaginons s'il avait travaillé avec un autre gars, il aurait peut-être fait quelque chose de plus hip-hop, peut-être quelque chose de plus reggaeton, on n'en sait rien. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'a inspiré ça et je voulais faire quelque chose de... Ouais, je voulais faire de la musique, quoi. Je voulais pas rester dans le hip-hop.
Ouais.
Je voulais vraiment pas rester dans le hip-hop. C'était du gâchis, en fait. Un mec, quand quelqu'un il a la voix de Gims, tu peux pas rester dans le hip-hop. C'est se limiter, je trouve. Aujourd'hui, on le voit bien. Là, c'est un artiste variété.
C'est un chanteur, bien sûr. Ouais.
Ouais, c'est un chanteur. Il chante beaucoup mieux qu'avant. C'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis aussi de progresser, de comprendre c'était quoi vraiment le rôle du producteur. C'est de dire, Stan, tu vois, t'as une vision. Cette vision-là, elle peut permettre à... C'est les gens, après, ils vont venir pour ta vision, en fait. Mm-hmm. Ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait aller très, très loin avec une bête de vision et de pas rester dans des cases. Parce que forcément, Section d'Assaut, pour la majorité des Français, c'était un groupe de rap. Mm-hmm. Mais je ne l'ai pas trop vu comme ça, quoi. Mm-hmm. Mais j'ai beaucoup appris en travaillant avec Gims. Franchement, avec cette expérience-là, elle était mortelle.
Une question que je me pose toujours, justement, quand tu travailles avec un groupe comme ça, qui a assez rapidement aussi quelqu'un comme Gims, justement, qui a des envies de faire autre chose que du rap ou d'aller dans d'autres univers, tu vois, quelque chose de très hybride avec la variété, la chanson, la pop. Mm-hmm. Est-ce que t'es le genre de producteur qui t'interroge aussi sur la singularité de ta musique, dans le sens où tu veux qu'elle ait tout de suite une patte, un truc identifiable? Mmh. Ou est-ce que, parce que tu le disais aussi, il y a des questions de vision, il faut aussi savoir s'adapter aux envies, aux personnes qu'on a en face de soi et s'effacer, tu vois, d'une certaine manière, par rapport à ce besoin de singularité, cette espèce de signature musicale qu'on aimerait imprimer, quoi.
Mmh. Après, j'allais dire, ouais, s'effacer, c'est pas difficile, parce qu'en vrai, si on regarde bien, la majorité des gens, même à l'époque, ils regardaient largement moins les crédits. Mmh. Donc en gros, t'es déjà effacé à partir du moment où tu chantes pas ou quoi, donc... Ouais. Mais
tu vois, toi justement qui es sensible aussi au rap américain, il y avait déjà des producteurs. Quand le disque démarrait, tu savais que c'était eux. On parlait des Neptunes, tu vois, par exemple. Typiquement, tu vois, c'est ce genre de producteurs-là. Est-ce que toi aussi, tu avais cette volonté-là?
Mmh, bah oui.
Ouais.
Bah oui. Je voulais que mon style soit reconnaissable direct. Et
est-ce que tu penses que c'était réalisable en étant justement, tu vois, au service d'un artiste comme Gibbs et aussi d'un groupe comme la section, tu vois, avec ces envies-là, tu vois?
Ouais, je pense que oui. Et de toute façon, à partir du moment où j'avais fait ma direction, etc., je savais que c'était différent, que je savais que cette couleur n'avait pas été faite et encore ici, tu vois. Et de toute façon, après, ils ont appelé ça, je crois, la pop urbaine, je sais pas.
Ouais, il y a eu ce mot-là, c'est ça.
Tout et n'importe quoi, ouais, mais c'était bien. Mais je savais qu'on avait fait quelque chose de différent avec Gims. Et je savais que cette couleur-là, je pouvais l'utiliser pour pas mal de d'artistes après et que... je savais, ouais. C'était le but, surtout. Et c'était le but. Mais après, y a, comme je disais juste au début, c'est qu'il y a aussi comme une part de pas fait exprès, quoi.
Bien sûr.
On fait la musique... en plus, on fait les musiques assez rapidement et on n'est pas là à dire « Oh putain, peut-être que j'utilise le même kick là pour que... pour que les gens disent « Ah, c'est lui qui a fait ça. »
Ouais, il n'y a pas de surintellectualisation de ta part non plus, quoi.
Non, à ce moment-là, non.
Ouais.
Non, c'était vraiment du feeling et... Et voilà, quoi.
Ça explique aussi peut-être un morceau comme Disque d'or, où là on est sur du I'm a boss.
Ouais, bah là c'était clairement, la volonté. Ouais, c'était clairement la volonté, quoi. Là c'était Gims, il est venu avec cette mélodie. Je fais ok, bah vas-y, on c'est parti.
Disque d'or, de platine ou de diamant. Fuck les puristes, y'a quoi? Tu crois qu'on perd ça inconsciemment? Là c'est le 2-2-1, DH, je suis sans THC. J'ai le cul propre, trop fier, personne peut me dire je THC.
Après, moi, mon rôle, c'était de faire sonner le morceau et de pousser, tu vois, genre avec peut-être des grosses outros, des trucs comme ça, rendre le truc majestueux.
Ouais.
Ah, quoi. Mais ça, pour moi, c'est des morceaux street, c'est cool, ça se fait en deux secondes et c'est cool, tu vois.
Justement, sur cette forte ressemblance, est-ce que parce que t'es dans le tunnel vision, tu te poses pas cette question et tu dis ce que peuvent dire les autres? Je m'en moque et peu importe, tu vois, je le fais, peu importe.
En fait, si Gims, il veut absolument que faire ce genre de morceau, on y va.
Ouais, ouais.
De toute façon, en même temps, genre, faut se mettre aussi dans le contexte, c'est que je dois m'en sortir aussi. Mm-hmm. Je dois remplir mon frigo.
Bien sûr.
C'est-à-dire que si Gims, là, il a à fond sur ce genre de truc, et que je sais que ce morceau, il a peut-être une occasion de tourner en radio et que faire des ventes, bah, mm-hmm. bien sûr, je ne veux pas, ah ouais. je vais pas rechiner, je le fais direct.
Ce rapport très pragmatique
bien sûr.
au fait d'être musicien.
Bien sûr.
Et que voilà.
Déjà, j'ai la chance d'être avec un groupe qui marche super bien mm-hmm. et qui a fait 300 000 ventes à l'époque. Genre, mm-hmm. c'était fou à l'époque.
Surtout en pleine crise de l'industrie du disque.
Et bien sûr.
Ouais.
Donc, je veux pas dire oh non, je vais pas faire un truc qui ressemble parce ouais. que, bah ouais. non, si tu veux ça, je te fais ça et ouais. j'essaie de faire ça à ma sauce. Mais bon, voilà quoi.
Je le disais tout à l'heure, quand toi tu arrives, mm-hmm. Il bosse déjà avec deux musiciens notamment, mm-hmm. qui sont Renaud Rubio et Wisla.
Ouais.
Est-ce que tu les rencontres ? Est-ce que vous discutez ? Est-ce qu'il y a une forme de d'échange qui se crée entre vous, tu vois, pour essayer justement de dessiner un peu cet esprit, cette musique, tu vois, de la section d'assaut.
C'est Wisla, c'est ça. Mm. Wisla, j'ai jamais rencontré.
Ok, crois. D'accord.
Et Renaud, j'ai été en contact avec lui parce que comme on travaillait tellement rapidement, ça devait aller vite, il y avait mm-hmm. des retards et tout ça. Bah, tu vois, comme le morceau Whatty House, mm-hmm. bah là-bas c'était Renaud qui avait fait les bases du morceau.
Ouais.
Et donc bah comme Renaud il était pas avec nous à la campagne et tout, etc., il pouvait pas venir, bah ils m'ont demandé de prendre la relève vu que j'avais déjà enchaîné pas mal de mm-hmm. la majorité du projet. Et donc c'est là que Renaud, bah on est rentré en contact, etc. Et oh, la connexion elle était trop cool. Renaud je le kiffe de ouf.
Sur cette période justement de tes débuts avec la section, est-ce que t'as une prod préférée ? Est-ce qu'il y a un truc où en particulier tu te dis je suis content de l'avoir fait ? Parce que tu vois, sur tous les critères dont on parlait, c'est-à-dire mm-hmm. de comment dire, infuser tes propres envies, mm-hmm. ta propre patte, et aussi aller à la, tu vois, de faire réussir la magie avec leurs envies à eux, tu vois, mm-hmm. est-ce qu'il y a une production en particulier ?
Bah, j'irais ma direction.
Ouais, ma direction, ouais.
Parce que. Ouais, ma direction. Parce qu'on n'était pas dans... Il n'y avait pas vraiment de référence, c'était vraiment la cool. Il y a un peu la touche de Jackson, il y a un peu de Say Giving To Me, tu vois.
Ouais.
Il y a ce truc-là avec des gros drums. Ouais, non, ma direction, je dirais, ouais. Parce que pour moi, ça a changé pas mal de choses. Même dans l'industrie du rap, ceux qui ont commencé à vouloir chanter. Parce que Gims, il a ouvert la porte à beaucoup de gens. Même, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à chanter juste après. Mm-hmm. Même des sopranos, des gens comme ça, ils chantaient largement moins avant. Et... je pense que ma direction, ça a joué.
Mm. Et ça t'a aussi, toi, ouvert des portes, puisque tu vas commencer à travailler avec les artistes de la section en solo.
Mm-hmm.
On va en parler un petit peu après, mais tu vas commencer à produire pour d'autres artistes de rap français. Je pense mm-hmm. notamment à quelqu'un comme Dry.
Mm-hmm.
Et là, effectivement, ce truc dont tu parlais de réussir à faire une sorte de rap qui tire vers la variété, la pop, etc. Dès le enfin, je ne sais plus si c'est le premier ou un des singles de son album, Tôt ou tard, en 2012, c'est Ma Mélodie, justement. Avec,
ouais, mais ça, on avait fait. Justement, on avait fait dans la même config avec Gims et ouais. tout. Après, je veux de la batterie. Ouais, je crois même que j'avais joué les batteries, je crois, sur le jeu.
J'ai des idées neuves, mais je suis pas à vendre. J'arrêterai le son le jour où je serai bien et pas avant. Je veux plus que ma mélodie fasse de l'autostop. Être dans la lumière une fois sur deux, tel un stroboscope, ma musique.
Et bah, tu vois, c'est un truc intéressant dont je voulais te parler. C'est que, effectivement, alors.
Mais je sais pas jouer de la batterie par contre. Mais, alors, c'est ça qui est fou.
Ouais, voilà. Je voulais te poser cette question-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que, effectivement, aussi, aux États-Unis, on est dans ce truc où. Il y a de plus en plus ces influences pop-rock qui commencent à infuser mm-hmm. cette espèce d'envie de la stadium music, comme mm-hmm. disait Kanye West, Didi, ouais. tu vois, ce genre, mm-hmm. Jay-Z, ce genre d'artiste.
Mm-hmm.
Et effectivement, sur un morceau comme celui-là, on sent cette envie, on sent ce truc d'avoir quelque chose de live, tu vois, qui tire ouais. vers la pop-rock, quoi.
Ouais, bah moi, je voulais vraiment rendre ma musique, au final, je voulais qu'il y ait des vrais instruments, qu'il y ait des vrais trucs. Et c'est ça aussi qui m'a frustré aussi, c'est que, tu vois, quand on écoute Problème d'adulte, on voit que c'est des fausses guitares, et tout, ouais. etc. Et moi, je voulais des vraies guitares, je voulais ce genre de trucs. Et j'ai toujours voulu avoir ce feeling avec des vrais instruments, que je veux que ma musique elle soit jouée. Mais bon, j'ai vraiment... Ouais, mon but, ça a toujours été ça, c'est de rendre ma musique la plus vivante possible. Mais après, je pense que ça va. Ça va. Sur Dry, je pense que ça s'est ressenti et que c'est le plus important, quoi.
Donc, il y a vraiment ce truc un peu de toujours d'être un peu autodidacte et même si tu n'as pas la formation musicale,
ouais. Tu
y vas quoi.
Mmh. Ouais, ouais. Et c'est surtout que, avec toutes nos machines, tout ce qu'on a aujourd'hui, les logiciels, franchement, tout est possible en vrai. Même quelqu'un qui ne sait pas jouer vraiment une vraie basse, je pense qu'il peut prendre une basse, il peut jouer une note, il coupe deux notes, il fait. Qu'avec de la découpe, on peut faire des choses de ouf. Et la batterie, c'est pareil. Moi, je faisais les hats. Après, je me démerdais, quoi. On se démerde. Ouais.
C'est aussi le moment où donc, vous commencez à travailler sur ces albums solo. Je pense à celui de Gims. Mm-hmm. Ensuite, il va y avoir celui de Black M.
Ouais. Il y a eu le Fa aussi. Ouais.
Et il y a eu le Fa un tout petit peu plus tard, effectivement, ouais. 2 ans après. Est-ce que d'un seul coup, il y a aussi cette volonté de dessiner avec eux, parce que tu es très présent à la production de ces albums-là, évidemment aussi avec, on parlait de Renaud Robbie.
Mais j'étais moins présent après l'apogée.
T'étais moins présent parce qu'en termes de crédit, on te retrouve beaucoup. Mais alors c'est peut-être qu'en travail studio, tu l'étais peut-être moins du coup.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de sons que j'avais fait avec Gims à l'époque, qu'il a réutilisé pour son album. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des vrais problèmes en termes de contrat, etc. Et des tentatives d'arnaque, des trucs, des gens qui ont essayé de se mettre sur mes... Je parle pas de la section, hein, je parle de mes problèmes internes. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, le fait que je puisse pas signer les papiers à temps... du coup, les artistes, que ce soit Gims, toute la section, ils attendaient leur oseille. Mm-hmm. Et du coup, ils attendaient que je signe. Et comme moi, j'étais dans les problèmes avec justement mon producteur de l'époque, ma relation.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De toute façon, c'est un peu...
Émoussé.
Ouais, parce que genre des fois c'était des qui m'appellent, ça parle mal et moi ça me vénère. Après Gims il s'énerve un peu, moi ça me vénère. Et du coup on s'est tous énervés les uns contre les autres. Mm-hmm. Donc du coup ça a un peu niqué la relation. Et du coup c'est ça. Donc du coup moi je suis parti. Et entre temps moi j'étais parti dans l'équipe, dans l'écurie de chez Teufa. Donc j'étais parti vraiment, on va dire un peu à l'opposé du Watibé. Et du coup les mecs je les voyais largement moins.
Ouais. Donc tous ces morceaux qu'on retrouve aussi bien sur Subliminal, le premier volume de The Shinsekai, justement l'album Les yeux plus gros que le monde, tout ça c'est des trucs qui datent déjà de l'époque de la section et qui vont durer jusqu'à leurs albums en fait. C'est même plus des trucs sur lesquels tu travailles avec eux directement.
Sur les mais après je travaille toujours directement avec les gens.
Ok.
J'envoie jamais les prods à distance ou quoi.
Qu'on comprenne bien justement sur ce que tu essaies d'expliquer aussi sur sur les problèmes contractuels et sur la distanciation que ça a pu créer, tu vois.
Je sais même pas si je l'ai fait plus de 5 fois sur ce truc là d'envoyer une prod et je te garde ta prod. Non, en vrai je produis de A à Z, je compose avec l'artiste, je finis la prod. Non.
Ouais.
Donc, je suis toujours avec ces gens-là, en fait. Je suis toujours connecté, mais un peu moins, etc. Ouais. Après, Dadju, c'était vraiment... Ouais, on était vraiment connecté à 100%. Parce que lui, il n'était pas dans ces histoires-là. Il s'en foutait. Et voilà, quoi.
Donc, tu n'as jamais été contractuellement lié au Watibé, par exemple? Tu n'as jamais été signé je sais pas, en édition, ce genre de choses?
Non, pas du tout.
Parce que je sais qu'ils ont signé à un moment donné des producteurs. Quelqu'un comme BBP, par exemple.
Ouais, exactement, eux, BBP, ouais.
Donc, c'est pour ça, tu vois, je me demandais si c'était ton cas aussi ou pas.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et tu vois, l'expérience qui m'est arrivée, justement, avec mon producteur, etc., et Warner Chappell. Pour moi, c'était tellement une mauvaise expérience que je me suis dit, bon, crée ta boîte d'édition, crée ta boîte de prod, et va signer avec personne. Et... En vrai, le business, une fois que tu as les connexions, tu n'as besoin de personne. Mm-hmm. Parce que quand tu signes justement en édition, leur but, c'est leur rôle, c'est de te présenter, de faire des connexions avec les rappeurs, de te trouver un studio, et de donner une avance. Mais bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai plus besoin de ça.
Ouais. Puis tu voulais peut-être, j'imagine, surtout te concentrer sur ta musique et sur ta création, quoi.
Ouais, et ouais, c'est ça. Et moi, j'avais vite compris que, en gros, t'as un studio, si t'as un lieu où tu peux faire venir des rappeurs, des rappeurs ou des chanteurs,
des artistes,
forcément, et que t'as le talent pour t'as le talent pour attirer les gens, forcément, ton business il va super bien tourner. va super bien tourner. Tout le monde va venir. Ton studio, ça va devenir une plaque tournante. Enfin, je sais pas comment dire, mais tout le monde va venir à cet endroit-là pour se rencontrer. Pour... C'est ça, en fait.
D'où, j'imagine, du coup, tu le disais tout à l'heure, le fait que tu te rapproches de Teufa. Mm-hmm. Comment tu fais cette rencontre et en quoi elle est importante pour toi par rapport à ce que tu expliquais?
Je crois que c'est par James Ismad.
OK.
Parce que James Ismad, c'est aussi, c'était... je crois que c'est un des premiers placements aussi que j'avais fait en France. Mm-hmm. Et lui, il était signé chez Teufa. Et il m'avait demandé, ouais, tu peux venir au studio, je sais pas quoi, pour travailler. Il voulait travailler avec moi. Et comme il était là-bas, forcément, bah, je suis parti là-bas et j'ai rencontré Teufa. Et Teufa, il savait à peu près tout ce que j'avais fait. Bah, forcément, parce que la section, elle marchait tellement bien. Et il m'a proposé de travailler, etc. Et j'ai dit, vas-y, faisons. Et c'est là où j'ai vraiment appris le comment fonctionne le business du rap game à l'époque. Quoi. C'est qu'il avait des grands locaux. Tous les soirs, il y avait des rappeurs, il y avait tout le monde qui venait en fait. Et ils ne travaillaient même pas, les gens. Ils venaient juste voir Teufa, ils venaient masteriser leur disque.
Parce qu'il y avait Eric Chevet qui était déjà installé là-bas, c'est ça?
Exactement. Ils venaient mixer les morceaux chez Fred Landu. Mm-hmm. En fait, c'était...
Il y avait toute la chaîne de fabrication dans ce studio-là, ouais, quoi.
Exactement.
Dans ces studios, du coup. Mm.
Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est le business, c'est ça, en fait. Il faut avoir ces studios, il faut produire, il faut... Et les gens vont venir automatiquement, tout ça. Parce que les artistes, si on regarde bien, les artistes, ils ont toujours besoin de nouveaux sons. Et même de rencontrer des gens. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris comment le business, il marchait. Quoi. Enfin, pour les beatmakers, les producteurs. Donc, voilà.
Et donc, effectivement, en très peu de temps, tu vas produire pour Kery James. Mm-hmm. Un morceau comme 9-4, c'est le Barça, notamment. Donc, c'était sur l'album Dernier MC. Même si c'est des choses qu'on commençait à entendre un petit peu dans tes placements en solo pour la section, là c'est un morceau où il y a cette direction trap complètement assumée et qui était un peu inattendue pour quelqu'un comme Kery en plus à cette époque-là. Quoi. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir particulier d'un morceau comme celui-là?
En fait, c'était Teufa, il avait la vision de faire un morceau un peu zbeul avec ce sample-là, en fait. Un morceau trap, il voulait vraiment un morceau rue pour Kery.
Avec la boucle de piano, là, justement. Qui
est... Non, pas la boucle de piano, c'est la... C'est pour les
Youth Boys. Ah oui, d'accord. Ouais.
Et j'aurais dit, les gars, laissez-moi, attends, je descends en studio, je remonte. Et j'avoue, on voit bien la prod, il n'y a rien dans la prod, c'est un piano, un sub, des drums. Donc,
c'est la simplicité, l'efficacité de la trap de l'époque aussi.
Donc franchement, 5-10 minutes plus tard, je remonte et je fais écouter le truc et ils ont dit, c'est ça qu'on veut. Et c'est tout, quoi. Ça s'est fait archi rapidement, quoi. Et c'est ça, j'aime bien quand la musique, elle est faite de manière rapide, les gens, ils se posent pas de questions. Et ça s'ambiance en studio, c'est cool. Et tu sais très bien que t'as visé dans le mille, quoi. Ça... Et c'est ça, en fait, c'est une vision de Teufa, en fait, qui voulait faire un morceau trap et j'ai fait le reste, quoi.
Et en plus de Kery, donc tu participes, comme je le disais, à des productions sur cet album Dernier MC, tu fais plein de gros noms du rap français, justement. Mm-hmm. Tu vas faire des productions sur l'album de Lino.
Ouais, Lino aussi, il travaillait avec Teufa.
Bien sûr, c'est pour ça.
Tunisiano aussi.
Fianso, tu fais des prods pour Blacklist 2.
Ouais.
Donc c'est assez fou comment en très peu de temps, REDK aussi.
Bah c'est ça en fait, c'est les conséquences, enfin c'est pas les conséquences, mais c'est le fait d'avoir un studio où il y a tout le monde qui vient, forcément tout le monde est là, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble. Et franchement, il y a tout le monde qui passe au studio. Tout le monde.
Et sur cette période, justement, mine de rien, il y a eu le morceau Faute de français qui a été un single.
Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus, où la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, sous tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations?
Il y a eu le fait
Wolfgang aussi.
Exactement, j'allais parler de Wolfgang. Parce que Wolfgang, ça devait être un exercice intéressant pour toi. C'est-à-dire que c'est un morceau qui existait déjà donc sur la fameuse Radio Bitume, cet album qui sort sans son autorisation.
Ouais.
Qui n'est pas terminé en plus, parce qu'il n'y a qu'un seul couplet.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu te souviens de l'exercice que ça a dû être? Alors peut-être aussi en collaboration avec Teufa, comme il a cette vision de réalisateur ou pas, tu vois, je sais. Est-ce que tu te souviens un peu de l'exercice que ça a dû être de faire un morceau comme Wolfgang, tu vois? Pour le coup, de le refaire en plus.
Bah en fait, on écoutait beaucoup justement ce projet-là de Lino. Et Teufa, il voulait absolument sortir ce morceau-là. Et il a dit, il faut qu'on termine ce morceau. Et forcément... moi, j'avais énormément de prod, j'avais énormément de loops, etc. Et j'avais pris justement un ensemble de Dvorak.
Dvorak, ouais, tout à fait.
Et parce que celle-là, je l'avais en tête, j'avais. Et ça collait en fait. Mm-hmm. Ça collait parfaitement au texte, l'intensité, tout était là en fait. Et. Ouais, ça a matché direct.
Une mèche du plastique, je fais du Wolfgang comme ma puce. La revue oui, de la tête à chaque mesure que je crache, ça pue le classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le béton de plastique, je cache une menace sous la capuche. L'ambiance la brûle. Wolfgang, Wolfgang.
En fait, j'ai l'impression en fait, d'être assez chanceux, c'est que. Il y a pas mal de situations, j'ai pas eu besoin de me prendre la tête pendant des semaines, des mois, à dire putain, mais qu'est-ce que je vais mettre là sur ces voix, mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas d'idée. En fait, genre, je sais pas, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, c'est de trouver à chaque fois, limite immédiatement, les solutions à tout ça, quoi.
Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est pas aussi de la discipline de travail, à force, tu vois, de faire, ouais. D'être très réactif sur les solutions aussi à trouver, les solutions créatives à trouver.
Ouais, justement, après ça, c'est le taf du producteur, c'est de. C'est de trouver toujours la solution le plus vite possible et que l'artiste, il soit pas. Il dise pas, bon, ok, vas-y, je vais voir quelqu'un d'autre. Ou, ok, bon, vas-y, c'est pas grave, on laisse ce morceau de côté. Le but, c'est de. Ouais, c'est ça, faut être hyper réactif. Il faut être hyper réactif. C'est ça aussi qui m'a sauvé avec Gims, etc. C'est que. Il chante un truc, je savais, direct que bon, j'avais déjà l'instrument sur le bout des doigts et ça allait super vite en fait. Et c'est ça qui m'a, toute ma carrière, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Même jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est le fait d'être hyper rapide et dans la composition. Je parle pas dans la prod, mais dans la composition, je suis hyper hyper speed.
Et c'est vrai qu'après cette période où justement tu places pour ces gros noms du rap français, il y a encore des albums qui sortent. Malgré peut-être la forme de distance dont tu parlais tout à l'heure, je citais l'album Mon cœur avait raison, mais il y a aussi donc Monsieur Fall, sur lequel tu as encore des productions, Indéfini de Shinsekai, Eternal Insatisfait. Et on retrouve toujours, finalement, cette espèce de synthèse dont on parlait tout à l'heure dans ton style de production, où il y a vraiment ce truc d'être à mi-chemin entre le rap et la pop. Quoi. Il y a toujours cette volonté et, qui se nourrit de plein de choses, de plus en plus d'influences africaines aussi, notamment.
Ouais. Et surtout, quand je produis pour quelqu'un, mon but, c'est toujours aussi de dire, vas-y, fais écouter ce que tu as en stock. Et comme ça, je ne fais pas la même chose. Quoi. C'est ça, le truc, c'est déjà, c'est ramener ses influences et de ne pas, des fois, se dire, bon, vas-y, je vais faire un single, je m'en fous. À un moment donné, quand tu as bien mangé avec un projet et que c'est bon, tu commences à avoir un nom, je pense que là, il ne faut pas non plus trop se dire, vas-y, je vais faire du single. Je n'étais pas là-dedans, en fait. Je ne suis pas ce genre de producteur, genre de mec qui voulait juste se faire kiffer, mettre ses influences, ramener sa petite touch. Et voilà quoi.
Il y a un moment donné, sur cette période entre 2010 et 2015, où effectivement, la section, elle est un peu moteur et tous les projets solo, le travail que vous faites ensemble et avec les autres producteurs, il y a vraiment ce truc, effectivement, cette ouverture, tu vois, de rap qui tire de plus en plus justement vers des choses, chansons, variétés ou pop. Et tu sais, il y a une bascule souvent en 2015 où, parce qu'il y a eu Caris les années précédentes avec tu vois, cette démocratisation de la trappe, il y a Jul qui commence à arriver, qui apporte d'autres influences, il y a même des choses comme PNL. J'ai l'impression que d'un seul coup, il y a une partie du public, même grand public, qui commence à se détourner un peu de ça. Est-ce que tu l'as senti ça aussi, ce shift?
Bah oui, parce qu'à un moment donné, en fait, la musique, ça marche par cycle. Et à un moment donné, si tu casses les couilles aux gens pendant 5-6 ans avec le même style de musique, forcément, à un moment donné, il va y avoir un nouveau style qui va arriver et qui va. Et en vrai, il faut juste regarder les États-Unis et se dire, bon, ce style-là, il va arriver en France peut-être dans un an ou deux. Et c'est ce qui s'est passé.
Ouais.
Forcément.
Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve, tu vois, avec l'arrivée d'artistes comme Jul ou PNL, c'est qu'ils arrivent presque avec un truc plus français dans l'approche, tu vois.
Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que, aussi, il y a un truc qu'on dit pas beaucoup, c'est que un mec comme Jul, pour moi, c'est un des seuls mecs. Oh, on va dire peut-être DJ Mehdi aussi.
Oui.
C'est les seuls mecs, on va dire, pour moi, dans. Ils sont très rares, ces gens-là, à avoir vraiment instauré un nouveau style, en fait. Mais vraiment leur style, à eux. Ouais. C'est pas genre, nous, on fait de la copie, vas-y, genre de ci, de ça, on détourne. Non, c'est vraiment leur style. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Très, très. Franchement, ces mecs-là, ils ont. Et c'est pour ça qu'ils sont là encore aujourd'hui, quoi. C'est parce qu'ils ont marqué le game et qu'ils sont uniques.
Est-ce que toi, en tant que producteur, justement, musicien, À ce moment-là, tu le sens. Est-ce que ça te pousse à ta propre interrogation sur la musique que tu veux et tu peux faire?
Ouais. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on veut. En fait, c'est que avec le temps, surtout, on se perfectionne dans la musique, dans la technique. Et quand on devient de plus en plus technique, on devient aussi beaucoup plus critique sur sa technique d'avant. On se dit, ah, putain. Bref, et forcément, des fois, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de la musique d'avant, parce que je me dis... Et
c'est compliqué pour toi de tourner là-dessus, quoi.
Ouais, et aujourd'hui, avec toutes les techniques que j'ai apprises et que je maîtrise aujourd'hui, je vais te faire des choses qui sont plus nouvelles, quoi. Je ne peux pas me permettre de faire des trucs basiques comme je faisais avant, quoi. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'était bien pour l'époque. Mais est-ce que des fois je me dis, j'essaie d'avoir du recul sur la musique, est-ce que ça a bien vieilli, tu vois? Est-ce que j'ai ramené quelque chose de nouveau? C'est ça que j'essaie de me demander, tu vois? Et je me pose la question tout le temps, je me dis, mais...
Et tu penses qu'il y a certains morceaux, oui?
Certains morceaux, oui, mais je pense qu'il y a, d'autres, il y a des morceaux... j'étais plus dans un truc de... Pas de soupe, mais de... Dans la continuité de ma musique, mais je n'innove pas non plus trop. Parce qu'aussi, il faut savoir que aussi, quand tu produis pour les gens, les gens veulent aussi, veulent des hits. Les gens veulent des morceaux d'albums. Et forcément, des fois, les gens ne sont pas ouverts à tout non plus. Donc, des fois, tu te dis, ah, fais chier, vas-y, ce morceau, ce track-là, je vais la garder pour autre chose. Peut-être je donnerai à quelqu'un d'autre, peut-être dans un an ou deux, ça passera. Ou peut-être la poubelle.
Par le fait que tu as été force de proposition, tu as été surpris justement par le fait, tu vois, parmi les productions que tu as fait sur cette période-là, qu'ils l'apprennent, tu vois, sur cette période au milieu des années 2010, quand tu produis toujours pour les solos de la section, pour aussi des gens de Watibé, par exemple, à Boudebeng, tu vois. Est-ce qu'il y a un ou deux morceaux qui peuvent te revenir en tête sur justement ta force de proposition, tu vois, qui a fonctionné, quoi?
Non, mais en fait, là, ça me rappelle. En fait, j'ai passé ma vie en studio, donc j'arrive même pas à me rendre compte. Genre...
Les œillères, toujours.
Ouais. Non, en vrai, sur chaque projet, j'essaie de ramener quelque chose, tu vois. Genre, même quand on fait... Oh, j'arriverai pas à te dire. Franchement, honnêtement, j'arriverai pas à te dire.
T'inquiète.
Après, moi, je pense que si, c'est aux gens de juger selon leur culture.
Mais parce que t'avais cette lucidité, tu vois, sur ton propre travail, parfois, c'est intéressant, cette lucidité critique en disant, parfois aussi, je m'efface, tu vois, encore une fois.
Bien sûr.
Tu vois, je réponds à la demande d'avoir de hits, etc. S'il y avait eu le processus contraire, tu vois, ça aurait été intéressant d'un exemple, quoi. Mais s'il n'y a rien qui te vient là, il n'y a rien qui te vient là.
Ouais, il n'y a rien qui me va, qui me vient à l'esprit. Mais ouais, là, j'essaie de me dire, ouais, mais avec Dadju, on a fait pas mal de nouveaux trucs. Enfin, Shinseka et Dadju, on a fait... Ouais,
je me souviens d'un morceau de Black M avec Dadju. Alors, il y a un truc de reprise dedans, mais il y a un parti pris un peu ratchet à la DJ Mustard. C'est le morceau Tout se passe après minuit.
Ouais, mais ça, c'est pas...
Non.
C'est pas nouveau, ça.
Non, c'est pas nouveau, mais
moi,
voilà.
C'est de la soupe.
OK.
C'est de la soupe carrée. Genre, si tu veux écouter du Mustard, tu vas écouter DJ Mustard.
Ouais.
Là, c'était vraiment juste pour avoir un single radio, parce que la mélodie, elle était cool, etc. Non, mais après, ça, c'est pas quelque chose que je vais...
OK.
Je vais retenir, tu vois. Genre, je préfère quand même Black M, il fait des... c'est au premier rang, je sais plus c'est quoi, il fait au premier rang. Il raconte l'histoire d'une fille, je crois que c'est... Je préfère ce genre de truc, tu vois.
Okay.
Oh, le mec, il connaît même pas les titres. Oh, la galère.
En même temps, si tu te retournes très peu sur ta musique, c'est normal.
Ouais.
C'est aussi à moi de le faire, c'est mon travail de le faire. Mais là, du coup, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus non plus. Il y a un artiste pour lequel tu places en 2019, en tout cas l'album sort en 2019, c'est Alonzo. Sur le Stone. Et là, pour le coup, t'es plus tout seul et t'arrives dans une équipe qui est déjà constituée, c'est-à-dire qu'il y a Still Nas, il y a Spike Miller.
Ouais.
Comment t'arrives à travailler avec eux et justement, c'est quoi ta place quand t'arrives dans une équipe qui est aussi constituée, tu vois?
En fait, moi, de toute façon, à l'époque, j'étais déjà un peu déconnecté de tout le rap français, de tout ça. En fait, j'étais vraiment déconnecté.
Ça se sent dans les crédits, justement, que t'apparais de moins en moins.
Ouais. Et en fait, c'est juste mon ami qui m'a dit. Vas-y, là, il y a Alonzo, il fait un camp là-bas, vas-y, va travailler et tout. Et comme Stina, c'est mon pote, il m'a dit, vas-y, viens avec nous et tout, on va travailler. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait une petite semaine, je sais pas, une semaine, non. J'ai fait quelques jours là-bas, à Marseille. Et voilà, on a travaillé ensemble. Après, je n'ai pas non plus travaillé comme si je travaillais avec Gims ou quoi, mais c'était cool.
C'était une expérience intéressante
pour toi. C'est juste une bonne expérience.
Ouais. Alors justement, tu disais qu'à cette époque-là, tu es beaucoup plus dans la musique électronique. À quel moment tu sens qu'il y a eu cette espèce de shift? Je ne sais pas si c'était par lassitude ou par envie de faire autre chose.
Lassitude.
Ouais, c'est de la lassitude par rapport justement au rap de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu as fait, tu vois, pour les gens, pour qu'on arrive à réaliser à ce moment-là?
Bah en fait, faut savoir que genre Snake, c'est un mec que DJ Snake, c'est un mec que je connais depuis que je suis ado, quoi.
Tu en parlais tout à l'heure avec Exactement. Cette époque DJ, etc. Ouais.
Exactement. Donc on a l'habitude de travailler ensemble depuis 2006, 2007, je sais pas quoi, 2007, j'en sais rien. Et après nos chemins, ils se sont un peu séparés, mais on voilà quoi. Et en fait, moi, je travaillais sur le Fa et j'avais loué un studio à Boulogne. Et un jour, je vais juste aller CEP et qui je croise dans le couloir, un de mes acolytes de l'époque, quoi, qui on travaille avec Snake et tout, Mercer. Et grandes accolades, mais qu'est-ce que tu deviens, patati patata, d'ailleurs. Et je fais, je suis là, moi, je fais du hip-hop, on suit et tout, etc. Mais vas-y, là, William, il voulait te voir et tout, etc. Je fais, vas-y, qu'il vienne. Et le lendemain, William, il vient en studio, etc. Il me dit, voilà, moi, je travaille sur mon album et tout, vas-y, ça te dit. Et je fais, vas-y, go. Parce que j'en avais marre, en fait, de.
T'avais envie d'autre chose, quoi.
J'avais envie d'autre chose, oui. Parce qu'en fait, ça, c'est que tu fais vite le tour du rap. Et je voulais faire quelque chose de nouveau et d'avoir de nouveaux défis, en fait. Tout simplement. Mm-hmm. Et là, le défi inter, c'était encore plus excitant. Et surtout, le défi électronique. J'étais un peu largué, je comprenais rien. On me faisait écouter du Skrillex. J'étais égaré. Je me disais, mais comment ils font ça, en fait? Alors que moi, je faisais les prods en 10-15 minutes, je m'en foutais. J'en avais rien à faire du mix master, je m'en foutais complètement. Et en fait, j'ai appris tout sur le tas. Je me suis dit, oh, la dinguerie. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais explorer, quoi.
À ce moment-là, Snake, il est déjà installé. Il a déjà fait Turned Out For What, tout ça. Ouais, okay.
Ouais, You Know You Like It, etc. Mm. Ouais. Il était... Mais là, le problème, c'est qu'il avait le défi de faire un nouvel album. Et voilà quoi, il voulait commencer un album de zéro, il avait même pas commencé. Voilà, c'était cool. Et je revoyais toute mon équipe de l'époque. C'était un vrai kiff, quoi.
Ouais, j'imagine que c'est stimulant pour tout le monde, en fait. Parce que lui, d'un seul coup, il a un nouveau cerveau.
Ouais.
Toi, tu te nourris aussi de sa créativité et des jeux des autres personnes, donc ça doit être hyper stimulant, quoi.
Et je savais que j'avais quelque chose à rapporter dans le sens où c'était les mélodies, c'était les accords, c'est tout ça. Et ça l'a fait direct, en fait. Ça a fait direct.
Oui, parce qu'en plus, même si effectivement les années vous ont séparés, mm-hmm. même si vous avez fait des choses différentes, je pense qu'il y a une base de langage commun qui fait que ça doit être facile pour s'entendre en studio aussi. Quoi.
Bah oui. C'était, on avait déjà eu l'habitude de travailler ensemble. Mm-hmm. Il savait c'était quoi mes points faibles, mes défauts. Je savais c'était quoi les points faibles, les défauts de tout le monde.
Alors ce serait quoi tes points faibles et tes défauts justement et tes points forts que toi tu penses avoir pu apporter globalement tu vois.
À l'époque c'était plutôt technique. Mm-hmm. Parce que quand tu fais du rap français, tu fais de la section d'assaut, tu te retrouves à faire de la musique EDM. Mm-hmm. Forcément la technique tu l'as pas acquise quoi. Ouais. Genre, mes points forts ça a toujours été les mélodies, les accords, la rapidité de trouver des solutions à chaque fois sur des...
Ouais, en fait, cette capacité à vite trouver des solutions dont on parlait tout à l'heure.
Réfléchir vite, je sais pas c'est quel type de réflexion, mais c'est une réflexion artistique, je sais pas. Mais c'est ça, tout ce qui m'a sauvé la vie avec le rap français, etc., ça m'a sauvé la vie avec Snake après, quoi.
Cette spontanéité,
ouais.
Cette non-intellectualisation dont on parlait finalement, c'est ça?
Ouais.
Est-ce que tu as un exemple concret d'un morceau comme ça? Je vais te demander encore cet exercice qui est peut-être pas évident pour toi, mais de cette collaboration justement, de cette effervescence qu'il y a eu justement avec Snake et tout le monde justement, d'un morceau en particulier, tu vois, où encore aujourd'hui tu te dis, je suis content parce que là, je trouve qu'on a touché du but un truc que je voulais, tu vois.
En vrai, tous.
Tous.
Parce qu'on est. Parce que c'est là aussi que j'ai appris à. En travaillant avec Snake, c'est là où j'ai appris à être perfectionniste. Mm-hmm. Avant, je ne l'étais pas du tout. J'étais juste un mec qui fait. Qui essaie de placer ses sons et qui est juste qui est là, il a un feeling, il veut juste le communiquer et il s'en fout s'il a. Enfin, il s'en fout pas non plus, mais il est pas vraiment dans le détail. Moi, genre, j'ai appris à rester genre, des heures sur une caisse claire, des heures sur le kick. Non, ça, non, ça va pas, c'est pas bien équilibré. Et à m'intéresser au mix, au master, tout ça. Pour moi, c'était l'école ultime. Ultime.
À quel moment tu as eu envie de faire de la musique à ton nom? Puisqu'on commence à avoir des morceaux qui sortent sous le nom de Stani, justement, en plus avec ce Y et plus ce tiret E, tu vois. Mm-hmm. À quel moment il y a eu cette réflexion et à quel moment ça a commencé à être tangible, quoi, tu vois?
Déjà à l'époque, y a eu ce moment-là où j'en avais un peu marre de faire que de la prod et je voulais faire autre chose. Parce que, En studio, je propose aussi des mélodies vocales, je propose des fois des refrains, je propose des trucs. Donc c'est pour ça que aussi le morceau Tout le monde me connaît, il est né aussi comme ça, parce que genre il y a pas mal de morceaux que je proposais et que voilà. Après des fois les artistes ils veulent pas, des fois il y en a ils prennent les textes, non, ils changent les textes, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, bah je sais produire, je sais aller derrière un micro, je sais comment gérer ma voix, bah fais-le quoi. Amuse-toi en fait, va en studio, amuse-toi. Et c'est ce qui s'est passé, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce projet-là parce que justement, à ce moment-là, je recroise mon équipe d'avant, les Snakes, les Mercer, tous ces gens-là. Quoi. Donc le projet, bah, j'ai carrément arrêté direct et je me suis mis sur l'EDM. Et après, en travaillant avec Snakes, etc., bah, une fois que j'ai acquis toutes les techniques, qu'il fallait apprendre, et que je maîtrisais vraiment tout, déjà je me suis dit ouais, je vais faire mon projet, tu vois. J'ai commencé à faire un projet 100% 8 bits. C'était un projet qui allait dans tous les sens, mais j'ai jamais rien sorti. Et en parallèle, j'ai fait un projet qui s'appelle Kia. Et Kia, c'était un projet drum and bass.
Ok.
Et là après j'ai sorti du son, j'ai sorti des trucs, j'ai sorti même un remix dans l'album de Snake, dans la version de luxe là, de Carte Blanche, tu vois. Mais j'ai sorti quoi, 5-6 sons, un truc comme ça. Et en fait, ouais, c'est là que j'ai compris que je kiffais vraiment faire de la musique électronique. Et c'était ça, en fait, le but, quoi. C'est geeker chez toi et tu sors, tu mets ça sur les plateformes pour après, plus tard, tourner.
Ouais. En fait, t'as presque eu la réflexion un petit peu, peut-être en retard, t'as peut-être pas saisi ce truc de toute cette scène SoundCloud. Il y a quelques semaines, on recevait Phase. Mm-hmm. Qui lui est passé par ça justement, ouais. Qui lui a complètement saisi le truc de tu mets ta musique sur SoundCloud, ouais. Justement des trucs qui sont très instrumentaux, très musique électronique, ouais. Peu importe finalement la sensibilité musique électronique, quoi. Mm-hmm. Donc, toi en fait il aurait presque fallu que tu saisisses cette balle au bon quelques années plus tôt, quoi.
Ouais, mais c'était vraiment un peu plus tôt encore parce que genre sans SoundCloud après ça s'est un peu transformé quand même.
Ah ouais, tout à fait.
Avant on pouvait mettre tout ce qu'on voulait là-dessus, mais aujourd'hui...
Ah bah non, c'est pour ça que je parle vraiment vers 2012-2013, tu vois, finalement, ouais. Au moment où t'es complètement rap français, quoi.
Ouais, ouais. Donc ouais, j'ai loupé un peu ce truc-là, mais...
Ouais, tu as fait autrement.
Ouais, j'ai fait autrement.
Exactement. Et pourtant, donc justement, là, il y a un morceau notamment qui est sorti, il y en a même deux, mais il y a celui-là, il y a un morceau comme Only You avec Rema et Offset. Mm-hmm. On n'est plus du tout dans la musique électronique. Là, on est sur la musique nigériane, Afrique de l'Ouest. Tu vois, ça vient d'où aussi, tu vois, cette envie de faire ce morceau-là et comment ça se crée, quoi.
C'est un truc que j'avais fait pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, je faisais énormément de choses. Je faisais du Kia, enfin, mon projet drum and bass. Mm-hmm. Je faisais tout et n'importe quoi parce qu'en vrai, il n'y avait que ça à faire. En fait, c'était trop cool.
Bien sûr.
C'était une des meilleures époques. Et j'avais cet instru-là et bah forcément, je voulais absolument que ce soit Rema qui pose ce truc-là. Je savais que sa voix, elle allait matcher avec l'instru. Et au final, on allait jusqu'au bout de notre idée. Mon équipe, elle est partie chercher Rema. On est parti chercher Offset. Elle fait les clips, etc. Ouais, c'était cool. Après, c'est pas le genre de morceau que j'écoute là encore.
Ouais.
Genre, pour moi, c'est un morceau, c'est une bonne vibe, c'est cool. Bon, il y a le petit synthé Ecktiz et tout qui fait le taf en mode, bon, c'est un peu différent, c'est cool aussi parce qu'on a Offset, parce que c'est un Kenry qui impose avec un Nigérian, avec un Cefran, c'est cool. Il y a un petit truc un peu original, mais le son non plus n'est pas super original, tu vois. Mais c'est juste une bonne vibe, en fait.
Je me pose toujours la question quand je vois ce genre de guest list, tu vois, où t'as Erema, qui est une énorme star nigériane, ouais. T'as Offset, une énorme star américaine. Tu le fais parce que tu as la vision créative. Bon, tu réponds un peu à cette question à Rema ou est-ce qu'il y a aussi un peu un truc de flex, tu vois, de se dire je l'ai fait et j'ai eu ces mecs-là.
Oh non, pas du tout. Oh, je m'en branle. Ouais. Je te dis direct que je suis pas du tout dans le mood de flex. Ah, ouais. Je m'en fous complètement.
C'était parce que tu avais cette vision créative.
J'avais cette vision-là, ouais. J'avais cette vision-là. Et mon but, c'est de faire de la bonne musique. C'est pas de flex, dire j'ai eu Rema. Je m'en fous complètement. Genre, c'est pas le but. Le but, c'est juste de dire. J'ai fait de la bonne musique, je suis content.
Et j'ai réussi ce rapprochement et ça match. Ouais. Il y a une alchimie sur le morceau.
Ouais. Et j'ai pas cherché à faire non plus le hit du siècle. J'essaie juste de faire de la musique classe, un truc qui me correspond, un truc en mode, ouais, un truc même que je me dis, ouais, peut-être si j'écoute dans 5-6 ans, je me dirais, j'ai pas honte, tu vois. Mm-hmm. C'est ça que j'essaie de... Ouais, c'est juste ça que j'essaie de faire, quoi.
Et là, il y a un autre single qui est sorti, qui est Pipou.
Ouais.
Où là, on est justement sur quelque chose de plus agressif, de plus peut-être musique électronique, justement, dans la vision que t'avais, tu vois, de faire quelque chose d'un peu hybride aussi, quoi.
Ouais, parce qu'à la base, c'est Pipou que je voulais sortir en premier, parce que c'est même le premier morceau qu'on avait clippé. Mm-hmm. Mais Pipou, c'est plus un délire qu'autre chose. C'est pas un morceau électronique comme j'ai l'habitude de faire. C'est un morceau où je me dis, bon, tu sais quoi, je m'amuse, je fais le con. Je mets pas de synthé, je m'en fous. C'est juste des voix et...
C'est pour ça que je parle de cette hybridation dans un morceau comme celui-là, quoi.
Ouais. Non, mais ce morceau-là, c'est un sacré hybride. C'est tous les hémisphères sud qui se retrouvent dans ce truc-là. Quoi. C'est, t'as Baile Funk, t'as la vibe afro, et t'as même, à un moment donné, la partie électro, quoi. House. C'est un sacré mélange. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est là où je m'amuse le plus, c'est faire vraiment des mélanges de genres et faire des trucs où on m'attend pas, quoi. Mm-hmm. C'est juste ça. Donc, même si on m'attend pas ou quoi, mais c'est juste que faire des trucs qui me surprennent moi et que je me dis, ah, c'est cool, c'est original.
Bah, clairement, je pense que si quelqu'un a découvert ton nom, vraiment ton nom avec, avec le morceau Rema Offset, avec Only You, il se prend Pipou derrière, c'est surprenant, c'est un contre-pied.
Ouais, il comprend rien. Et mon but, c'est ça, c'est pas d'habituer les gens à faire quelque chose de... Enfin, d'habituer les gens à faire que l'afrobeat.
Ouais, ouais.
En plus, moi, j'aime pas ça, en fait. C'est juste que je suis capable de faire plein de trucs. Après, ça peut être aussi un danger de faire ça, de partir dans tous les sens. Mais après, j'essaie de rester dans la vibe un peu afro en ce moment. Dans ce truc-là où il y a toujours la petite touch afro et voilà.
Donc, dans l'avenir proche, tes envies, c'est quoi? C'est de continuer à sortir des singles à ton nom, justement, à la fois d'imposer ton nom... sur ce côté un peu insaisissable, avec toujours cette peut-être signature électro et des influences afro. C'est quoi un peu, là, tu vois, à court et moyen terme, là, tes envies en tant que musicien?
Pour le moment, c'est de m'amuser. Ouais. Je suis en développement. Genre, j'ai sorti que 2 sons.
T'as l'impression de repartir de zéro, d'une certaine manière?
Oui. Bah oui, je pars complètement de zéro. Je suis pas une star, personne m'attend. Quand je fais une sortie pour ça, c'est comme personne m'attend à chaque fois... à mes sorties, c'est là où il faut s'amuser, il faut remplir sa discographie, enfin je sais pas comment on dit, genre sa page Spotify ou Deezer, non, j'en sais rien, ou Apple. Désolé, putain.
On cite les trois.
Ouais. Et c'est ça, c'est ça le but, c'est juste de s'amuser. Là, franchement, je fais plus de la musique comme, je suis plus dans le même mood qu'avant où je fais de la musique pour remplir mon frigo. Je suis dans un truc où si je veux arrêter, j'arrête. J'ai juste envie de m'amuser, en fait. Et si je veux que ça se ressente dans ma musique. Et je suis pas là pour faire non plus que du single. Je suis là pour si j'ai envie de faire un morceau spé, je fais un morceau spé. Si je veux faire un morceau de country avec un chanteur de reggae, je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux. Et là, le prochain son, là, genre là, j'appelais Don't Give Up. C'est un morceau de gospel avec grave des influences Kanye quand même. C'est comme si je rendais limite hommage, mais il y a du gospel, il y a les percus afro, ça part dans tous les sens, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est créer des mélanges. Et que les gens, ils disent, oh, putain, c'est original, quoi. J'ai juste envie d'être un mec original qui fait... Enfin, j'essaie pas d'être original, mais j'essaie tout le temps de me surprendre, en fait, en studio. Et me dire, ah, ça n'a pas été fait, ça, c'est cool.
D'avoir cette vraie approche du créatif ou du musicien, de faire ce qu'on aurait envie d'entendre, en fait, d'une certaine manière.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Parce que, genre... Il y a tellement de sons qui sortent tous les vendredis. Faut faire la diff.
Ouais, il faut y trouver du plaisir, toi, déjà, en tant qu'artiste, quoi, c'est ça.
Ouais.
Et à plus ou moins long terme, l'idée, c'est de sortir des singles. Est-ce que tu vois un long format, un EP ou est-ce que c'est encore trop contraignant d'une certaine manière?
Trop tôt.
Ouais.
Trop tôt. Parce que là, je pourrais faire un EP là, avec tous les sons que j'ai, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Juste du single par single. Ça me va très bien.
Et toi qui as été DJ, est-ce que l'idée c'est aussi de tourner en ton nom pour défendre ta musique?
Plus tard, ouais.
Ouais.
Je pense peut-être l'année prochaine.
Mm-hmm. Une fois que tu auras ce bagage discographique, un certain répertoire sous le nom de Sani. Ouais.
Parce que je pense que même mon image elle va se créer beaucoup avec le temps, etc. Et je pense qu'avec le temps, il va forcément y avoir des gens qui vont comprendre ma musique et vont me réclamer en live, etc. On verra.
Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro. Mmh. Alors du coup, pour toi, elle va pas vraiment... Alors chaque fois, c'est difficile pour les producteurs et peut-être que pour toi, elle va particulièrement être difficile. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, ou en tout cas qui ne connaît pas ton nom en particulier, que tu devais lui présenter ta musique, un morceau pour cibler un peu ton identité, ce serait lequel dans ta discographie?
Waouh, je dirais Pipou, en fait. Pipou.
Parce que genre, la plus immédiate.
Ouais, je te dirais, parce que c'est enfantin, enfin c'est cool quoi, c'est vraiment le mec qui se prend pas la tête, qui s'amuse, et il y a tout, il y a le mélange de tout ce que je kiffe, et voilà, je dirais Pipou, ouais.
Et puis en plus, je trouve qu'avec Pipou, on revient presque à ce que tu décrivais sur ce qui t'avait fait kiffer par exemple le Neptune, c'est-à-dire ce côté encore une fois agressif, simple, direct.
Percussif et tout ça, et...
Les voix.
Ouais.
Des fois, il y avait ça aussi dans les prods des Neptunes. C'est marrant, on y revient.
Ouais. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, je dirais Pipou. Avec du sifflet, il y a des pipus. Ouais, c'est ça, c'est marrant en fait. Et en fait, c'est exactement, tu vois, Pipou, c'est exactement le morceau qui décrit mon mood actuel quand je fais de la musique. Mais qui se prend pas la tête, qui s'amuse. Et voilà.
Très bien. Et ben merci beaucoup, Stani.
Ah bah, merci à toi, Raphaël.
J'espère que tu as passé un bon moment
de
discussion.
Ouais, c'était ça tue.
Dans ce podcast, donc BPM, podcast de discussion et d'échange avec les producteurs pour parler de leur parcours, leurs réflexions musicales et leurs inspirations. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes et les prochains. À très bientôt. Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.